Vous écoutez On lit pour vous.
Yves Chrétien, on écrit l'histoire par l'archéologie. Un texte d'Éric Dussault, paru le 8 juillet 2026 dans La Presse. Beaucoup de Québécois qui ont modifié le cours de l'histoire restent méconnus. Dialogue s'attarde à l'occasion à l'un d'eux. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur l'archéologue Yves Chrétien, auteur d'une découverte qui a changé notre lecture de l'histoire de la Nouvelle-France. En découvrant le site archéologique Cartier-Roberval à Cap-Rouge, région de Québec, le 21 octobre 2005, l'archéologue Yves Chrétien a ajouté 7 décennies à l'histoire du Québec. Pendant presque 10 mois, il a toutefois été forcé d'en garder le secret. Le 18 août 2006, c'est le premier ministre de l'époque qui a annoncé aux Québécois que la première colonie française d'Amérique du Nord se trouvait bel et bien sur le Cap-Rouge. C'est une des plus grandes découvertes de l'histoire du Québec, a alors déclaré Jean Charest. Et ce n'est pas la seule mise au jour importante qu'Yves Chrétien a réalisée depuis près de 40 ans. Les archéologues et les historiens savaient depuis longtemps que Jacques Cartier et Jean-François de la Roque de Roberval avaient créé la première colonie française d'Amérique du Nord sur le promontoire du Cap-Rouge, de 1541 à 1543. Pendant 2 ans, des centaines de personnes de différentes classes sociales sont venues de France et ont construit et occupé le fort d'en haut, sur la pointe du Cap, et le fort d'en bas, au pied du Cap. Leur objectif? S'y établir de façon permanente au nom du roi de France, François Ier. Toutefois, Cartier et Roberval, de même que l'ensemble des colons, ont dû retourner dans l'Hexagone en 1543, non sans avoir incendié les 2 forts avant leur départ, afin que les Premières Nations ne puissent pas s'en emparer. C'était une chose d'en connaître l'existence, mais une autre d'en révéler les traces concrètes plus de 450 ans plus tard. Le 21 octobre 2005, Yves Chrétien a visé dans le mille en réalisant ses sondages systématiques sur la pointe du Cap, à la demande de la Commission de la capitale nationale. Lors des 2 premiers sondages, creusés à 30 cm de profondeur, il a trouvé du charbon de bois et de l'argile cuite. Le 3e sondage a dévoilé l'existence d'un artefact totalement inattendu à cet endroit, un fragment de céramique italienne de style historiato datant du 16e siècle. Une assiette similaire, ayant le même motif et datant de 1540 à 1550, a heureusement été conservée à l'Ermitage, en Russie, et M. Chrétien en a appris l'existence grâce à ses recherches. En superposant le tesson trouvé à Cap-Rouge et l'image de l'assiette conservée en Russie, il a constaté qu'ils étaient identiques, ce qui signifiait que le fragment de céramique datait bel et bien de l'époque de Cartier et Roberval. Les découvertes extraordinaires demandent des preuves extraordinaires, rappelle M. Chrétien en entrevue, et à ce moment-là, il savait qu'il en détenait une. L'archéologue a ouvert une bouteille de Porto pour célébrer dignement son succès. Ensuite, il a fallu procéder à la datation du charbon de bois et des artefacts découverts sur le site à l'aide du carbone 14. Les résultats des tests réalisés aux États-Unis se sont avérés concluants. Des investissements de 7,7 millions. La Commission de la capitale nationale a fait monter l'information jusqu'au cabinet du Premier ministre Jean Charest. Il a été décidé que cette mise au jour devait absolument demeurer secrète, le temps que des clôtures et des détecteurs de mouvement soient installés et que des gardiens empêchent toute intrusion non autorisée sur le promontoire du Cap-Rouge. La période du secret a été longue, raconte M. Chrétien, puisqu'il aurait bien aimé diffuser la bonne nouvelle. C'est presque une surprise d'avoir réussi à garder ça secret jusqu'au moment de l'annonce. C'est donc le premier ministre québécois qui s'en est chargé en août 2006, en plus d'annoncer des investissements de 7,7 millions de dollars afin d'effectuer des fouilles archéologiques et de mettre en valeur le site. La trouvaille d'Yves Chrétien a été décrite comme étant l'une des 10 plus importantes de l'année 2007 par le magazine Québec Science. Des journalistes de l'Europe et des États-Unis en ont eux aussi parlé dans leurs médias. Libération, Ouest France, The New York Times. Monsieur Chrétien est heureux que le site archéologique Cartier-Robert-Val soit désormais accessible au public et qu'un belvédère ait finalement été aménagé sur la pointe du Cap-Rouge. Cela était prévu en 2008 pour le 400e anniversaire de Québec, mais sa construction a été retardée en raison de la découverte inattendue de 2005. L'archéologue se réjouit aussi que le Musée de la civilisation de Québec consacre une partie de sa nouvelle exposition permanente au site Cartier-Robert-Val et à sa mise au jour en 2005. Pour M. Chrétien, c'est une occasion extraordinaire de faire connaître un pan de notre histoire qui demeure, 20 ans plus tard, un secret parfois trop bien gardé. Trois découvertes marquantes dans la carrière de l'archéologue Yves Chrétien. 2009. Au domaine Cataraqui, situé à Sillery, à l'ouest de Québec, les archéologues de la Commission de la Capitale-Nationale, dont Yves Chrétien, ont fait une découverte stupéfiante selon leur employeur. Ils ont trouvé les fondations d'un bâtiment qui daterait de la seconde moitié du 18e siècle. Il s'agirait possiblement d'un bâtiment de fermage ayant eu une vocation domestique. À cette époque, les terres où se trouve présentement le domaine appartenaient aux jésuites de Sillery. 2021. À la maison des gouverneurs de Sorel-Tracy, dans la fosse des latrines, M. Chrétien a eu la surprise de trouver les vestiges d'un banquet qui aurait probablement été donné en l'honneur du prince William-Henri le 18 septembre 1787. Parmi les quelques 1300 objets qui ont été mis au jour, se trouvaient des bouteilles d'alcool, des verres, des carafes, des assiettes en porcelaine, des plats en terre cuite, des coquilles d'huîtres, etc. On dirait qu'il y a eu un méga party, selon M. Chrétien. 2024. Au parc Simard de Sorel-Tracy, M. Chrétien a fait une découverte d'une importance scientifique majeure, écrit-il dans son rapport. Lors d'un inventaire archéologique par tranchées réalisé à l'aide d'une pelle hydraulique, il a mis au jour des vestiges autochtones préhistoriques. Cette occupation autochtone pourrait avoir eu lieu entre 7000 et 7500 ans avant aujourd'hui. Il faut avouer qu'il s'agit d'un coup de chance, ajoute l'archéologue dans son rapport. C'était Yves Chrétien. On écrit l'histoire par l'archéologie. Un texte d'Éric Dussault, paru le 8 juillet 2026 dans La Presse.
Le pigeon, allié essentiel de l'humanité pendant des millénaires. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 15 août 2025 dans Le Devoir. Même s'il est aujourd'hui convenu de détester les pigeons, bisets, que nous côtoyons quotidiennement dans nos villes, il n'en a pas toujours été ainsi. Ces oiseaux domestiqués depuis plusieurs millénaires et transportés en Amérique du Nord par les Européens ont longtemps été utilisés comme messagers, mais aussi pour l'alimentation humaine et même pour le divertissement, y compris au Québec. Dans une ville comme Montréal, on les voit tous les jours en vol, perchés ou directement au sol. On peut parfois même voir un mâle faire la cour à une femelle en roucoulant au milieu des passants. Et si quelques rares citoyens les nourrissent, bien que ce soit interdit, la plupart des citadins détestent ces oiseaux qui n'ont pourtant jamais demandé à vivre en Amérique du Nord et encore moins dans nos centres urbains. Originaire du bassin de la Méditerranée et du Moyen-Orient, Le pigeon biset a été domestiqué par l'humain il y a au moins 5000 ans, voire avant. Il a ainsi été introduit dans plusieurs régions du monde en raison de son utilité comme source de nourriture, mais aussi comme messager, rappelle Samuel Mercier, historien de la culture et ornithologue amateur. Il s'agit en fait du premier oiseau à avoir été domestiqué. C'est un oiseau que l'on utilisait pour se nourrir, mais on a rapidement compris que le pigeon biset, qu'on appelle aussi le pigeon voyageur, a la capacité de revenir à son nid. Il a donc rapidement été utilisé comme moyen de communication. Dans la Grèce antique, par exemple, on s'en servait pour annoncer les vainqueurs des Jeux olympiques, explique-t-il. Cette espèce est en effet reconnue pour son excellent sens de l'orientation qui s'appuie à la fois sur sa mémoire et sur son utilisation du champ magnétique terrestre et du soleil. Cette faculté a valu au pigeon biset d'être utilisé notamment lors du siège de Paris de 1870-1871 afin de communiquer avec l'extérieur, mais aussi lors de deux guerres mondiales. C'est ainsi qu'un pigeon surnommé Gustave a parcouru près de 250 km en seulement 5 heures avec un vent de face le 6 juin 1944 pour apporter en Angleterre un message annonçant le début du débarquement de Normandie. Le rôle de cet oiseau était essentiel à la communication en raison du silence radio nécessaire pour empêcher que les troupes allemandes soient alertées. Les pigeons québécois. Si l'on voit aujourd'hui des pigeons en grand nombre dans les milieux urbains et dans les parages des exploitations agricoles du Québec, leur présence remonte à l'arrivée des premiers Européens dans la vallée du Saint-Laurent, souligne Samuel Mercier. À l'époque, le droit de posséder un élevage de pigeons était réservé à la noblesse et au clergé. Au Québec, Samuel de Champlain aurait installé un pigeonnier à Québec dès la fondation de la ville en 1608. Par la suite, d'autres installations permettant l'élevage de cet oiseau ont été construites, notamment à Montréal. La population de pigeons que nous avons ici découle possiblement de ces pigeons qui était déjà présent dès la Nouvelle-France, indique l'historien. Après la conquête, l'élevage de pigeons s'est répandu notamment parce que cette espèce facile à élever, qui peut produire jusqu'à 3 couvées par année, fournit une viande peu coûteuse. Cette utilisation alimentaire s'est d'ailleurs poursuivie longtemps, puisqu'on trouvait encore des pigeonniers à Montréal au 20e siècle. On trouve aussi des recettes de pigeons dans l'Encyclopédie de la cuisine canadienne de Johan Benoit, publiée en 1963. L'ouvrage propose une recette de pigeon rôti, mais également l'emploi du volatil dans le cipaille. Course. Élevé pour être mangé, le pigeon a également été utilisé pendant plusieurs décennies au Québec comme objet de paris sportifs, dans le cadre de courses de pigeons, rappelle Samuel Mercier. Les courses ont été lancées ici par des immigrants belges avant de devenir très populaires chez les classes ouvrières. On dit alors du pigeon qu'il est le pur sang du pauvre et beaucoup de gens participent donc à l'élevage et aux courses. La première du genre, souligne-t-il, a été organisée à Montréal en 1893 entre l'avenue du Mont-Royal, au coin de l'avenue du Parc, et Sainte-Anne-de-Bellevue. Par la suite, des clubs ont vu le jour dans différents quartiers. Si la pratique existe encore, les règlements municipaux sont plus stricts ou alors interdisent les élevages de pigeons. Mais si l'on observe aujourd'hui cette espèce avec méfiance, voire avec dégoût, les descendants des pigeons élevés pour leur chair ou pour leurs aptitudes servent désormais de proie privilégiée par certains oiseaux de proie qui, eux aussi, prennent leur place en ville. Selon la plus récente édition de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, La population des pigeons bisets serait en baisse depuis le début des années 2000. C'était le pigeon, allié essentiel de l'humanité pendant des millénaires. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 15 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août. En 1944, libération de Paris. Après plusieurs jours de combat entre la résistance française, les forces alliées et l'occupant allemand, Paris est libéré du joug nazi. Le général allemand Dietrich von Choltitz se rend aux troupes françaises et américaines sans exécuter l'ordre d'Hitler de détruire la ville. Le lendemain, le général de Gaulle descendra triomphalement les Champs-Élysées. Cet événement marque un tournant symbolique majeur dans la libération de l'Europe occupée. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 25 août.
Les gens ont peur. Sa compagnie vend plus de 1 000 kits de gestion des morsures de tiques en quelques mois. Un texte de Jean-Philippe Guilbeault, paru le 10 août 2026 dans Le Journal de Montréal. La peur grandissante de la maladie de Lyme contribue aux ventes. Une compagnie québécoise a vu ses trousses spécialisées contre les morsures de tiques s'envoler comme des petits pains chauds au cours des derniers mois, tellement l'inquiétude de la population d'attraper la maladie de Lyme est vive. Citation. Pour l'année 2025-2026, jusqu'à maintenant, j'ai vendu plus d'un millier de trousses. Fin de citation, souligne la fondatrice de La Petite Trousse, Geneviève Tremblay-Anger. Sa compagnie conçoit et vend des trousses de premiers soins, de secourisme et de gestion des morsures de tiques. Depuis son lancement l'an dernier, elle a été plusieurs fois en rupture de stock en raison de l'engouement des clients. Plusieurs dizaines de personnes sont également inscrites sur une liste d'attente. Citation. J'ai fait une vidéo, l'an dernier, qui est devenue virale en quelques heures et j'ai vendu des centaines de kits en 24-48 heures. Fin de citation, souligne-t-elle. Répondre aux inquiétudes. Ces trousses contiennent notamment 3 crochets de retrait pour tiques de différentes grosseurs, une loupe, une pince et un contenant transparent pour conserver la tique. Il s'est vendu plus de trousses pour les tiques en 1 an qu'en 3 ans pour d'autres trousses disponibles sur le site de la compagnie. Selon Mme Tremblay-Anger, cet engouement s'explique notamment par une crainte des Québécois de développer la maladie de Lyme en raison d'une morsure de tique. Selon les dernières données de l'Institut national de santé publique du Québec, la tique noire gagne du terrain et se propage même à Montréal et dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Il y a au total 685 municipalités exposées à la maladie de Lyme, principalement dans le sud du Québec. La pharmacienne propriétaire Tina Nguyen constate également une sensibilisation grandissante face aux tiques et à la maladie de Lyme. Citation. Les patients viennent davantage nous voir en pharmacie pour se renseigner sur les moyens de prévention et sur la conduite à tenir lorsqu'ils découvrent une tique. Fin de citation. Observe Mme Nguyen, qui a sa pharmacie à Repentigny. Saison plus longue. Geneviève Tremblay-Anger, qui a aussi été ambulancière en Montérégie, rappelle que la saison des tiques se prolonge de plus en plus tard et débute plus tôt dans l'année. Citation. C'est du printemps jusqu'à la fin de l'automne qu'on devrait avoir la trousse sous la main. Fin de citation, insiste-t-elle. La maladie de Lyme n'est que l'une des infections portées par les tiques. Le journal révélait le mois dernier que les cas d'anaplasmose, une autre maladie transmise par ces insectes, ont presque doublé au Québec en 2025. Quoi faire en cas de morsure de tique? La retirer avec la bonne technique dès que possible. Consulter un professionnel de la santé pour une évaluation. Une dose d'antibiotique peut être donnée de manière préventive. Un traitement antibiotique de quelques jours peut être offert aux personnes atteintes de la maladie de Lyme. C'était « Les gens ont peur ». Sa compagnie vend plus de 1000 kits de gestion des mordures de tiques en quelques mois. Un texte de Jean-Philippe Guilbeault, paru le 10 août 2026 dans le Journal de Montréal.
Trouver notre lumière dans l'obscurantisme. Le texte est signé Jean-Hugo Fillon, qui est vice-président principal et directeur général de Cossette Montréal. Texte publié dans la presse du 18 août 2026. L'année 2026 s'est ouverte avec des airs de Moyen Âge. Une poignée de plateformes contrôle l'infrastructure, les données et l'attention. Trois d'entre elles réunissent à elles seules plus de 55 % des dépenses publicitaires mondiales hors de la Chine, selon les données de l'organisme WARC pour 2025. Chez nous, cette emprise est encore plus frappante. Au Canada, selon les données du Global Media and Internet Concentration Project, près de 80 % des investissements publicitaires numériques sont effectués par seulement deux acteurs, Google et Meta. Des économistes comme Cédric Durand et Yanis Varoufakis évoquent des risques du techno-féodalisme, entre guillemets, un système où la valeur se concentre autour de quelques grandes structures numériques. Aujourd'hui, quelques acteurs aspirent nos dollars et nos ressources vers leurs châteaux forts de la Silicon Valley. Ces châteaux forts, nous contribuons à les bâtir un budget à la fois. Pourtant, ce modèle n'est pas une fatalité. Si le monde de la publicité se trouve au cœur de ces tensions à titre de levier financier, il peut aussi devenir le rempart qui provoquera une « techno-renaissance », entre guillemets, en ramenant l'humain au centre de ses choix. La Renaissance a sorti l'Europe du Moyen Âge en replaçant l'être humain au centre des intérêts culturels, scientifiques et intellectuels. Aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nous mettons la machine au centre et l'humain à son service. L'intelligence artificielle est un formidable accélérateur, mais un accélérateur ne choisit pas la direction. Ce rôle nous revient. À nous donc de faire de la créativité humaine notre point de départ et de l'intelligence artificielle un outil au service de la dignité, jamais l'inverse. Cela suppose aussi de décloisonner nos métiers. Léonard de Vinci était à la fois peintre, ingénieur et anatomiste, non par dispersion, mais parce qu'il savait que comprendre les liens entre les disciplines est la vraie compétence. En communication, une donnée sans intuition ne donne que de l'optimisation marginale. À l'inverse, une idée sans donnée n'est que du joli bruit. Ensemble, elles donnent de la pertinence. Cessez de financer ce que l'on dénonce. Les penseurs de la Renaissance croyaient à un monde régi par l'harmonie. Ils ont inventé la perspective pour le représenter avec justesse. Notre époque, elle, monétise la désinformation à l'échelle industrielle et la publicité automatisée en est l'un des principaux bailleurs de fonds, le plus souvent à notre insu. Les firmes NewsGuard et CosmoScore estiment à 2,6 milliards de dollars américains par an les revenus publicitaires versés à des sites de désinformation. Plus alarmant encore, une étude des universités Stanford et Carnegie Mellon paru dans la revue Nature, conclut que 67 % des annonceurs y placent des publicités sans le savoir. Diversifier ses investissements vers des médias indépendants, locaux et fiables, n'est donc pas de la charité. C'est une simple question d'hygiène de marque. Nos choix laissent une empreinte culturelle. Nous avons le devoir et le pouvoir de mesurer cette empreinte. Réinvestir dans la culture que l'on veut. La Renaissance a été portée par l'imprimerie et par le mécénat des Médicis, qui ont choisi où placer leur argent pour faire avancer la culture. L'intelligence artificielle peut jouer le rôle de l'imprimerie. Reste à savoir qui jouera celui des Médicis. Les entreprises, comme les grandes plateformes, en ont les moyens. Soutenir des créateurs et créatrices, des médias de qualité, l'éducation aux médias. C'est aussi payant pour les marques. Selon une étude de McKinsey et de Nielsen Q, les consommateurs et consommatrices, particulièrement les plus jeunes, soutiennent désormais massivement, avec leur portefeuille, des entreprises alignées sur leurs valeurs. Nos budgets sont le carburant de l'écosystème médiatique. Chaque dollar investi sur une plateforme renforce la concentration. Ou, si nous choisissons autrement, finance une solution de rechange. La publicité ne suit plus la culture, elle la finance et décide qui survit. Ce levier est immense et nous l'utilisons encore trop peu consciemment. Le techno-féodalisme n'est pas une fatalité. C'est un choix collectif, une recommandation à la fois. Chaque dollar est un vote pour la concentration ou pour un écosystème plus diversifié, pour le clic immédiat ou pour une marque qui dure, alignée sur nos valeurs ou en contradiction avec elles. Citation : L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Fin de citation dit une formule souvent prêtée à Mark Twain. À nous de faire en sorte qu'elle rime, cette fois, avec Renaissance. Notre métier ne se limite pas à vendre. Il bâtit et cofinance la culture. Il est temps d'assumer ce rôle. Fin de ce texte titré « Trouver notre lumière dans l'obscurantisme », signé Jean-Hugo Filion et publié dans la presse du 18 août 2026.